Alors bonjour à tous, bienvenue dans le premier podcast Size Sport. Aujourd'hui, on a décidé de commencer en fait cette série de podcasts avec un invité pour vous parler d'un sujet qui n'est pas lié à la science et directement, en tout cas, n'est pas lié avec le sport directement. On va parler aujourd'hui de formation. On va parler de formation avec Didier Reiss. Didier, bonjour.
Salut Pierre.
Tu es le co-auteur de la Bible de la préparation physique avec Pascal Prévost aux éditions Amphora, qui est devenue une référence dans le domaine du sport et de la préparation physique et pour les étudiants et les futurs coachs. Et tu as justement plusieurs écoles de formation en France, Efficientia, où justement tu aides les jeunes stagiaires à devenir des futurs professionnels du sport.
Alors, je vais dire exact et la double casquette puisque je suis intervenant au DUST métier de la forme en étant responsable sur je vais dire deux modules, je vais dire module, hein, ça sera plus simple que de donner en fait les l'intitulé exact en fait universitaire. Donc c'est bien
À
ce qui
l'université de
d'avoir
Lyon.
voilà ce qui permet d'avoir un regard en fait croisé sur des diplômes qui apportent les mêmes cartes professionnelles mais qui sont approchés de deux manières.
Alors justement, est-ce que par rapport à ça, est-ce que tu vois une différence par rapport à l'accès au métier en passant par STAPS ou en passant par le BP?
Alors, si on prend juste le DUST métier de la forme, il a une intégration qui est aussi bonne que le BP. Parce que justement, ils ont une carte professionnelle derrière. Si on parle du cursus STAPS général, ça veut dire une licence entraînement ou des masters 2 en préparation physique, eux, pour eux, ce n'est pas toujours aussi simple. Déjà, de raison, les cartes professionnelles délivrées, en fait, soit elles étaient inexistantes, soit mal adaptées, hein, au milieu de la forme et de l'entraînement. Alors pour un Master 2, d'ailleurs, il faut chercher les cartes professionnelles. Or, on ne peut pas normalement enseigner si on n'a pas une carte professionnelle. Donc pour le DUST, ça fonctionne bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas autant de DUST qui sortent tous les ans que de BP. Après, il y a une petite différence quand même notable, c'est que le DUST se fait en 2 ans, le BP se fait en 1 an. Il faut le bac pour faire le DUST, hein, principalement. Ou alors, il faudrait avoir 25-26 ans, avoir travaillé 4 ans dans la mise en forme, donc faire une petite VAE pour rentrer. Donc c'est plus compliqué d'aller faire un DUST en général que le BP.
D'accord.
Maintenant, sur ces deux diplômes, ils ont une manière, je pense, équivalente d'accéder en fait à des postes.
Et est-ce que tu vois une différence notable au terme de contenu de formation si le DUST est en 2 ans et qu'un BP en une année, est-ce que toi tu vois une grosse différence sur le niveau des diplômés ou pas du tout?
Alors là, je peux me faire virer instantanément maintenant avec ce que je vais dire. Bon, quelque part aussi, l'emploi est précaire. Oui, alors y a des différences. Alors, on se dit, bah, 2 ans, c'est plus long qu'un an. Oui, enfin, je peux vous faire un diplôme de 50 heures étalé sur 10 ans. Hein.
Oui, bien sûr.
Je vais faire 5 heures par an. Et c'est un peu ce qui se passe quand même sur le contenu, en tout cas sur de l'entraînement. Donc, musculation et entraînement, c'est réparti sur 2 ans, mais finalement, il y a moins d'heures que sur un BP.
D'accord.
Puisqu'on est à 700 heures, sur les 700 heures du BP, il doit y avoir 600, 640, 130 qui concernent vraiment l'entraînement. Bon, beaucoup moins sur le DUST, mais le DUST, par contre, donne plus de compétences, puisqu'il ouvre sur de la comptabilité, de la gestion en fait, d'entreprise, il y a de la socio, il y a. Alors, déjà, plus des matières qui justifient un bac plus 2, d'un point de vue universitaire. Mais qui ouvre aussi à quelqu'un qui pourrait avoir des responsabilités au sein en fait, d'une structure. Donc, ce ne sont pas parfaitement les mêmes contenus. Et je le dis en fait moi-même. Alors, ça ne veut pas dire que si on sort du DUST, on est incompétent, ça serait quand même. Mais il y a encore des manques. Il y a encore des manques sur l'entraînement. Alors, je prends le cas de Lyon. Je ne sais pas comment font les collègues en fait, de Strasbourg, de Toulouse, enfin, là où il y a d'autres, Créteil aussi. Là où il y a d'autres DUST, je pense qu'ils font pareil. On leur donne quand même toutes les billes et les pistes pour aller en fait continuer à se former. On leur donne suffisamment de bibliographies, suffisamment de sites de référence, de bouquins pour pallier. Donc ça veut dire du travail personnel. Et puis le jeune l'étudiant devient un professionnel équivalent au BP.
Alors, depuis que le marché s'est ouvert aux organismes de formation privée qui peuvent délivrer aujourd'hui le diplôme de brevet professionnel, les stagiaires, les futurs coachs ont un énorme marché devant eux avec un choix beaucoup plus important. D'après toi, quels sont les critères à retenir pour bien choisir son école de formation pour obtenir un diplôme de qualité.
Tu sais qu'on a vécu ça il y a presque 10 ans. La première école qu'au Plessis-Belleville, on a eu un étudiant, enfin, on a eu plusieurs, mais il venait du Mans. Et le Mans, le Plessis-Belleville, sur une carte, ça fait quand même quelques kilomètres. Je l'avais au téléphone, je lui avais dit, mais pourquoi vous venez chez nous, en fait? Il y a d'autres écoles plus loin, enfin plus près de chez vous. Il m'avait dit, mais c'est parce que bah, déjà on était connus à l'époque, bon, j'avais déjà coécrit des ouvrages. En fait, c'était la qualité des intervenants qui le motivait à venir chez nous. Ça veut dire que peu importe où est l'école, soit elle se limite géographiquement à prendre des formateurs qui sont à moins de 30 km parce qu'ils vont trouver ça pratique, soit ils font venir des formateurs parce qu'ils sont vraiment compétents dans leur domaine.
Ah, tout à
Et
fait.
je m'étais déjà en fait axé moi sur cette direction depuis le tout début, hein, à faire que ce BP soit comme un DU. Ça veut dire en fait chaque spécialiste vient, alors c'est un coût réel pour l'école. Ben oui, mais c'est un gain aussi pour les étudiants. Et puis justement, on parle de valeur. Je pense que le niveau de sortie est quand même plus intéressant et on leur a ouvert l'esprit. D'ailleurs, nous, on a dû se connaître un peu comme ça. J'avais dû aussi te demander si tu pouvais intervenir à l'école.
Ah oui.
Donc voilà,
Ouais.
je pense que c'est les intervenants qui font la qualité en fait de la formation. Et tu sais bien que personne ne s'aime dans cette profession puisque tout le monde se tire les pattes sans arrêt, se critique. Donc du coup, je vais faire pareil. Moi, ce que je peux critiquer chez certaines écoles, c'est de faire ce que j'appelle du consanguin. Et c'est le terme. C'est le même formateur qui fait tous les cours. Il n'y a pas de formateur qui dépasse les 50 km parce que ça va coûter trop cher en train, en avion, en hôtel, en ce que vous voulez. Et je vois pas comment, en fait, où ce sera un coup de chance incroyable que tous les spécialistes de chaque domaine soient justement dans la périphérie en fait de l'école.
Ah,
J'y
tout à
crois pas.
fait.
Et je vois bien, puisque ça fait des années que tous les deux, on est sur les réseaux, on est dans les séminaires, les colloques, on est invité à gauche, à droite. On croise les gens, puis on nous identifie souvent sur Facebook pour un sujet. On voit bien que le niveau de réflexion, je parle pas d'intelligence, hein, je parle finalement de connaissance, il va pas très très loin. Et j'en veux pas, maintenant j'en veux même plus aux étudiants. Je vois bien que c'est durant leur formation, on leur a pas ouvert l'esprit, on leur a apporté des connaissances qui sont assez vieilles. Et ça va aussi quand on paye pas très cher les formateurs. J'ai connu ça sur Paris, on parle de Paris là, on parle pas en fait de petite ville de Corrèze. À Paris, des formateurs payaient 10 euros de l'heure. Comment à 10 euros de l'heure, le formateur va-t-il prendre le temps chez lui d'aller chercher d'informations pertinentes? En fait, il va même faire de la garderie, c'est arrivé ça. Au lieu de faire un cours de musculation réel sur voilà, une méthode et puis ses impacts physiologiques, c'est on les met dans la salle et puis ils s'entraînent et puis bah, pendant 4 heures, on fait un petit circuit training, la surveillance, parce que le gars, il se dit, je suis payé 10 euros de l'heure. Bah, on en a pour ces 10 euros de l'heure.
Ouais, tout à fait, tout à
Et
fait.
ça, c'est pas que c'est honteux, c'est inadmissible.
Et donc c'est un des points justement que vous, si vous nous écoutez maintenant et que vous cherchez une école, que vous voulez devenir coach, que vous vous demandez quelle école choisir pour faire votre BP, que finalement vous dites bah, de toute façon le BP c'est un diplôme, donc n'importe où j'irai j'aurai le même diplôme. Vous aurez le même diplôme en effet si vous réussissez vos examens. La seule grosse différence, ça sera le contenu que vous aurez pendant votre formation. Ne pensez pas parce que les programmes sont entre guillemets communs que vous allez avoir le même contenu entre chaque école. Comme le dit Didier, vous allez avoir des intervenants qui seront de différents niveaux et c'est finalement la valeur des intervenants qui va faire la valeur du diplôme. Moi, j'avais eu le cas, probablement que toi, tu as croisé des écoles et des formateurs dans la même situation. J'ai eu le cas où, moi, en tant qu'intervenant, je venais faire mes cours et je croisais des gens qui, en fait, venaient d'avoir eu leur diplôme l'année d'avant. Et ils donnaient des cours ensuite aux nouveaux stagiaires.
Ah ben ça se fait toujours. La première fois que j'ai vécu, bon, pareil, toujours sur Paris, évidemment, mes premières formations étaient sur Paris. C'est-à-dire que c'était mes PowerPoint qui étaient diffusés l'année d'après par l'étudiant que je venais de former. Alors, et mes PowerPoint, des fois, c'était le PDF, le vrai PDF. C'était, et où le gars avait refait, alors il avait refait les petits schémas, les petits trucs à sa sauce. Et d'ailleurs, comme j'avais accès moi au blog, hein, où il y avait, parce que c'était des blogs à l'époque où ils avaient posté tous les cours, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il doit dire là-dessus? Il ne doit pas savoir quoi dire. Parce que
C'est ça, c'est ça.
dans mes diapos, il y a une diapo où, par exemple, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'étais obligé
Alors, comme tu n'avais
d'orienter.
pas mis la grosse croix rouge dessus, bah du coup.
Mais on l'a déjà dit, ça. Mais je leur dis, mais vous savez, mais c'est un support. Vous avez assisté au cours, donc vous avez noté. Et puis, ça devient un petit peu trop lourd à la fin. Mais je me suis dit, oh, c'est terrible. Alors, tu peux pas en vouloir au petit jeune qui, lui, doit être fier d'être mis comme formateur juste derrière son diplôme. Tu peux en vouloir, par contre, à la structure qui ose
Bah
faire
oui,
un truc comme ça, mais qui, bien
complètement.
sûr, ne va pas le payer cher. C'est ça le truc. Puis, ça va te lancer, c'est une bonne opportunité pour toi. Oui, alors oui, d'accord, mais sérieux, vous êtes vraiment des gangsters. Et c'est pas une, hein. Et c'est pas une école qui fait ça. J'en ai déjà deux en tête, on va pas les nommer, c'est pas du tout intéressant. Et ça a quelques années maintenant. Mais ça se fait toujours. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien contre le fait d'un majeur promotion et qu'il puisse enseigner des petits trucs d'anatomie, mais il manque tellement de recul sur le reste. Il n'aura pas encore la pédagogie. Il ferait mieux d'abord de devenir un bon professionnel avant de penser ensuite à transmettre son savoir.
Exactement.
Ah ben oui. Et puis s'il a eu, encore une fois, qu'une année de formation, ah ben il lui manque tellement de choses. Encore une fois, tellement de choses, il ne saura pas aller chercher de l'information pertinente, même si on leur montre comment faire. Oh, ça se fait encore. Ça, c'est désolant. Si y a des écoles qui font ça, je veux dire, là, voilà. Vos formateurs, ils ont combien d'années de bouteille? Personne ne va le dire. Je n'imagine pas un directeur de centre dire à ses futurs clients. Ce sont souvent des clients, en fait, hein.
C'est des clients, oui, tout à fait.
Je l'ai rappelé en fait des fois à des formateurs en disant, vous savez, ce sont des clients à 6000 balles. Ça veut dire que quand on rentre dans un restaurant et qu'on va payer 50 balles, on se prend déjà pour les rois du monde en disant le client est roi. Alors que finalement, on ne paye pas le loyer du restaurant ni le salaire des cuistots. Donc nos 50 balles contribuent à quelque chose. Un client à 6000 balles, je pense qu'il a le droit d'exiger une qualité. Et dans la qualité, ça devrait être, voilà, quels sont vos formateurs? Et combien d'années d'expérience ils ont. Et quand on n'est pas capable de dire au moins une année pour un formateur, je pense que ça devrait faire partie des raisons pour choisir ou pas en fait d'intégrer une école.
Surtout que pour les étudiants, pour les stagiaires, enfin pour les futurs entrants dans ces formations-là, finalement le prix d'entrée, il varie un petit peu entre les écoles, mais c'est globalement la même somme. Et pour la plupart, ils vont être financés par soit Pôle emploi, soit la région, puisqu'il y a des systèmes de financement. Donc finalement, encore une fois, je m'adresse à tous ceux qui souhaiteraient intégrer une de ces écoles. Ne regardez pas forcément au prix, parce que vous n'allez pas forcément gagner à 500 € ou à 1 000 € près. Si en plus vous vous faites financer la formation, choisissez une formation qui soit vraiment en adéquation avec ce que vous recherchez. Si vous recherchez de la qualité, si vous cherchez à réellement vous former, regardez au contenu et regardez surtout aux intervenants. En sachant, d'ailleurs, là, je passe un peu sur un sujet autre, mais en sachant d'ailleurs que même si vous avez les meilleurs intervenants du monde, une année de toute façon ne vous suffira pas à vous former. Vous ne serez pas, vous aurez votre diplôme, vous aurez les bases, en espérant que vous ayez intégré ce que les personnes peuvent vous transmettre, ce qui est encore là. Il y a toujours du contenu qui se perd entre ce qu'une personne vous transmet, ce que vous pouvez absorber de cette transmission. Considérez que c'est une bonne base, hein, si vous avez des bons intervenants, et votre formation ne fait que commencer. Donc vous avez le droit de travailler, mais vous n'êtes pas encore au top de toute façon.
Alors, c'est pour ça que j'aime l'université, c'est parce que l'université, évidemment, c'est sur plusieurs années. Regarde, j'ai commencé par un brevet d'État et je suis allé ensuite à l'université derrière. Je les incite, de toute façon, à rejoindre l'université. Alors, soit faire un DU. Il y en a qui pourraient, en fait, réintégrer quand même le DOS derrière parce qu'on pourrait rattaquer une licence. Mais là, tu as quand même tout dit. Une année ne suffit pas. Mais j'ai été formé, moi, sur une année donc du brevet d'État jeunesse et sport. On nous avait pourtant fait croire que le niveau de sortie était excellent. Le formateur responsable de l'époque a osé me dire qu'on avait le même niveau qu'un DESS, hein, qu'on n'avait
Ah
rien à
oui.
leur envier. Ah, mais véridique. Mais j'y ai cru, en fait. J'ai envie de dire, t'as envie d'y croire, déjà. T'as envie de croire que ton diplôme, il vaut un bac plus 5. Et puis, tu dis, bah, j'ai rien à apprendre. J'ai eu la chance d'aller faire un petit séminaire à Dijon. C'était Gilles Cometti, hein, qui animait ce séminaire. J'ai pris des claques monstrueuses pendant 2 jours. Ça m'a fait réaliser que je ne savais strictement rien et qu'il fallait que je continue à me former. Donc, heureusement que j'ai vécu ça, parce que sinon, j'avais le melon, en fait. Et donc, je pense qu'il y a encore des centres où on nous fait croire que vous savez tout, vous êtes au top, allez-y, travaillez. Alors, non, effectivement, tu l'as dit. En une année, il existe tellement de contenus différents sur le sport santé, sur la préparation physique, sur les méthodes d'entraînement, sur la PEDA, sur les maladies chroniques, qu'il est impossible d'avoir tout intégré. Alors, sauf si on est autiste, Asperger. Mais même, parce que de toute manière, regarde, toi et moi, quand on passe des contenus quelque part, on est quand même limité par une moyenne du groupe. peut-être que certains éléments pourraient en fait engendrer plus de connaissances, mais tu es obligé quand même de te fier à un groupe, donc des gens qui ont besoin qu'on répète plusieurs fois en fait l'information, qui viennent des fois quand même à un niveau scolaire qui était déjà plus bas, pour qui c'est plus compliqué. Tu sais, quand tu expliques la fréquence cardiaque de réserve, hein, il y a juste une soustraction, une multiplication et une addition. J'y passe de 1 à 3 heures. Et peu importe le formateur. Parce que certains font une allergie totale aux mathématiques. Mais là, c'est des mathématiques de niveau primaire. Quand on parle de pourcentage, j'ai envie de dire au pire, on atteint la sixième. Eh bien, et que ce soit là, que ce soit Dust, bon, je parle de l'université, que ce soit Dust ou que ce soit BP, les gens ont du mal. Donc, tu ne peux pas transmettre énormément d'informations en une année. Et il est vivement conseillé, d'ailleurs, ça c'est mon discours depuis des années, d'aller faire des formations supplémentaires, de se former, de continuer à lire.
Alors justement, tu penses quoi des formations complémentaires et même des formations, enfin on va dire les formations certifiantes, hein, puisque ça c'est quelque chose qui revient du système anglo-saxon, on le voit apparaître de plus en plus sur le réseau français. Donc on parle de certificat. Alors il y a encore des gens qui ont du mal et qui comprennent pas vraiment la valeur d'un certificat sur le marché du travail et sur le marché de l'éducation de manière globale. Donc est-ce que tu peux nous expliquer quelle est réellement la valeur d'un certificat?
La valeur du certificat, elle est pour l'individu. Il peut toujours le mettre en avant auprès de l'employeur, qu'il l'entendra ou pas, mais c'est surtout, j'en veux dire, pour lui-même. Tant que ce n'est pas diplômant, ça ne donne rien. Mais si on est déjà diplômé et qu'on va rechercher des informations supplémentaires et qui, derrière, ça atteste quand même avec voilà, un petit bout de papier qui démontre que, on a fait quelque chose. Moi, je serais employeur, je serais quand même plus intéressé par le jeune qui allait rechercher quelque chose, qui a continué à se former, à nombre d'années égales, hein, que celui qui s'est contenté de son diplôme.
Tout à fait.
Après, la valeur des certificats, eh bien, il faut regarder le contenu. Il y en a plusieurs sur le marché. Je n'ai pas vu le contenu de tous. Il y en a des bons quand même. Il y en a des bons, hein, heureusement, parce que sinon, c'est-à-dire que tout le monde est mauvais à part les gens qui parlent.
Ah,
C'est ce que je
c'est
dis, tout le monde se déteste dans cette profession, puisqu'en fait,
sûr.
on a tous l'impression d'être les meilleurs. Non, il y a des gens qui font des choses, on va dire, très propres et assez formidables. Ce qui me désole parfois, c'est que quand je regarde le contenu, je me dis, bah, c'est ce qu'on leur a dit, en fait, c'est ce qu'on leur avait déjà envoyé. Sauf que
Ouais.
maintenant, ils y font attention parce qu'ils viennent de payer cher.
Exactement.
Tu as parlé de la Bible de la préparation physique, elle fait 640 pages. J'ai envie de dire que si je vendais chaque chapitre, alors, je l'ai coécrit, hein, donc si avec Pascal on vendait nos chapitres 500 balles chacun, avec un petit cours vidéo de 10 minutes, on ferait ce que certains certificats font en fait.
Ah, tout à fait.
Ils t'envoient un PDF de 60 pages, 80, des fois 30.
Ah, tu fais une
Là,
petite vidéo PowerPoint et puis c'est bon.
et c'est bon. Mais j'ai envie de dire, bah, sinon vous avez ça pour 40 balles. Vous avez un bouquin là, 40 balles, vous avez. Et puis ça n'a peut-être pas de valeur parce qu'on n'a pas mis cher. Par
Ouais,
contre,
c'est ça.
si tu viens de mettre 1 500 ou 2 000 balles, alors là, t'y fais attention. Alors c'est pour ça que ça me désole quand je lis du contenu, je dis, bon, bah, c'est pas mal, mais il n'y avait rien d'extraordinaire.
Ouais.
Et on leur avait déjà donné, et tu viens de le dire, on leur avait déjà donné les billes, parce que ce qui est dans la petite formation, finalement, c'était dans le contenu de tel bouquin.
Alors, autre question pour toi, Didier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous dire tout simplement, pas nous expliquer, mais nous dire si cela existe d'être coach en ligne en France? Si tu peux exercer sans avoir de diplôme officiel, si tu peux exercer comme coach en ligne.
T'as bien fait de me relancer là-dessus, parce que je n'avais pas fini tout à l'heure, parce que quand tu m'as parlé de certificat,
Oui.
quelqu'un qui passerait qu'un certificat et qui n'a toujours pas de diplôme ne peut toujours pas, en fait, comment dire, enseigner, mais contre rémunération. Et je me rappelle très bien de cette phrase qui, moi-même, m'a mis de doute, parce que je ne suis pas juriste. C'était, non, mais il y a un vide juridique et on peut coacher en ligne. Alors, bon, bah, je me suis renseigné auprès des autorités compétentes qui m'ont dit absolument pas. Non, il n'y a pas de vide juridique, tant que vous n'avez pas de diplôme avec une carte professionnelle, même si vous avez fait toutes les formations. Et admettons qu'on prenne le cas d'un jeune, il s'est formé de partout, il est meilleur qu'un jeune diplômé. Mais pourquoi pas? Ben, ça
Oui.
change rien que c'est dommage en fait d'être aussi bon, aussi pro, et de ne pas avoir cherché un diplôme légal finalement,
Ah, tout à fait.
qui te permet d'enseigner contre rémunération, qui normalement. dans les grandes lignes, démontre quand même certaines qualités. Et au moins dans ce diplôme, ce que les gens oublient avec la carte professionnelle, c'est que ça t'a obligé à la demander auprès de l'administration qui a vérifié qu'on n'est pas un casier judiciaire. On peut très bien être compétent et le roi des escrocs. C'est pas incompatible. Et
Absolument.
le fait d'avoir une carte professionnelle, de dire, bah, ça retire déjà le fait que vous ayez un casier judiciaire qui vous empêche justement d'encadrer des gens. Et c'est pour ça qu'au moins il faudrait exiger cette carte professionnelle. Donc finalement, le certificat ne permet toujours pas d'être payé en fait et envoyer des programmes en ligne. Voilà, il n'y a pas de vide juridique là-dessus. Ça fait 2-3 ans que je l'entends vraiment ça. On le rappelle, et même si l'information est bonne, et elle l'est sûrement, d'ailleurs, son coup, je ne la remets pas en question, elle peut être très intéressante, mais non, ça ne donne toujours pas le droit, donc il faut se renseigner auprès de Jeunesse Espoir pour avoir en ces cas-là l'information. Oh, bah, ça va être radical. Non, on ne la connaît pas, elle n'est pas enregistrée, il n'y a rien en fait. Le fait qu'il fasse ses démarches, dans
Ah,
ces
tout à
cas-là, une
fait.
fois le certificat, qu'il fasse une VAE, qu'il demande l'équivalence avec un BP. Et puis on verra si ça passe, et pourquoi pas, mais je vois pas pourquoi, dans le domaine sportif, on trouverait ça normal de ne pas être en fait dans la légalité.
Ouais, complètement. Surtout qu'on en vient à un autre point, c'est le point aussi qu'on le voit souvent sur les réseaux sociaux, dans les discussions, notamment dans les commentaires, où la plupart des personnes dénigrent les diplômes universitaires ou les diplômes BP d'ailleurs, mais pas qu'en France, hein, j'ai constaté aussi dans le domaine anglo-saxon, où beaucoup critiquent justement les diplômes. Alors que ça soit BP, que ça soit master, une licence, un master, un doctorat, peu importe le niveau, les gens critiquent les diplômes. Généralement, les gens qui critiquent le niveau de ces diplômes ne l'ont pas eux-mêmes, mais quand même disent, voilà, l'essentiel du message, c'est de dire, bah, écoutez, ce diplôme, c'est de la merde, j'en ai pas besoin, moi, j'ai plus de compétences que ça avec telle et telle formation que j'ai faite à côté privé, et je pourrais très bien moi-même être coach. Mais comme tu le dis, finalement, si vous êtes si bon et si vous êtes formé, vous l'êtes peut-être très bon, d'ailleurs, vous avez peut-être du coup acquis tellement de connaissances que vous en avez beaucoup plus que celles que peut délivrer, par exemple, un BP, pourquoi ne pas passer tout simplement le BP pour être dans la légalité et pouvoir exercer pleinement et tranquillement?
Oui, évidemment, c'est une profession qui a l'air fun, pas très sérieuse, c'est du sport. Donc, on se prend une liberté qu'on ne prendrait pas évidemment que le médical. Je verrais bien un médecin, ouais, alors j'ai fait des formations, mais alors c'était à l'étranger, mais en fait, je suis pas vraiment médecin, mais je suis meilleur qu'un médecin. Personne ne lui ferait confiance. Parce que à ce moment-là, c'est trop important, ça concerne la santé en direct. Pour le sport, on veut bien croire que ce soit pas très important. On accepte volontiers que les gens n'aient pas les bons diplômes. Encore une fois, non, ben non, en fait. Si, bien de dire, si vous étiez si bon, vous avez qu'à faire les bonnes démarches. Mais ce que les gens sous-estiment, c'est qu'un hypertendu, un coronarien, un diabétique, il a finalement des besoins et des attentes vis-à-vis du sport que certains ne soupçonnent même pas. Et ça, on l'aborde quand même dans des formations sérieuses. Là, si je prends le cas de l'université, quand même, si tu as un master 2 APA, tu viens de faire 5 ans à l'université, je pense que tu as passé plus de 5 heures à parler du diabétique sur ces 5 années.
Oui, tout
C'est
à
même
fait.
sûr. Dans des formations quand même qui sont plus longues, elles deviennent plus sérieuses. Et c'est vrai que c'est facile de critiquer quand on n'a pas le diplôme, bah, essayer de critiquer pour se mettre en valeur. On le lit tous les deux sur les réseaux depuis longtemps. À l'époque, avant Facebook, hein, il y avait les forums. C'était la même conversation. Oui, il existe des gens. Alors c'est marrant. Tiens, pour les gens qui nous écoutent, allez écouter Defecator, parce que j'allais prendre une expression qu'il a utilisée. Quand on dit oui, parce que les gens qui critiquent, souvent, ils commencent comme ça. Oui, c'est ce qu'il fait. Tu sais, t'as toujours quelque chose de long comme ça, pour ensuite donner l'argument derrière. Donc, hein, c'est toujours oui, il existe des gens qui, non diplômés, sont plus compétents. Encore une fois, voilà. Ça reste étonnant. Parce que je ne les ai jamais rencontrés déjà. Là, ça fait 21 ans que je suis dans la profession. Tous ces gens non diplômés, meilleurs que des diplômés, je ne les ai encore jamais rencontrés. Personne ne m'a épaté. Quand tu les as en face de toi, en séminaire, en colloque, en ce que tu veux, ah, ils deviennent rouge écarlate au moins d'une minute. Ah, mais en fait, je savais pas. Non, ben bah oui, vous ne saviez pas, parce que vous n'êtes pas allé chercher l'information au bon endroit. Quand même, s'il y a des formations universitaires et d'État, il y a peut-être une petite raison quand même. Il y a déjà un cahier des charges. Des gens diplômés qui vont enseigner Et puis des choses qui sont pas très très agréables en fait à apprendre, mais qu'on va vous forcer en fait à apprendre. Alors que quand on se fait des formations seules, les choses qu'on n'aime pas, qui sont difficiles, on ne fera pas. Un petit peu comme quand on s'entraîne tout seul. Quand c'est dur, ça on va pas le faire. Si tu as un coach, il t'oblige à faire ce que tu n'aimes pas faire. Et si on ne t'oblige pas à faire des devoirs, si on ne t'oblige pas à rendre des devoirs, bah tu ne le feras pas. Tu deviens vraiment compétent. Et ils n'existent pas finalement, ces gens qui critiquent les diplômes et qui sont meilleurs que ces diplômés. Ou alors bah, qui tout de suite hein, qui viennent m'interpeller, on se rend compte, on boit un café, on parle entraînement. Mais je serais ravi parce qu'en plus de 20 ans, je ne l'ai jamais trouvé.
Quels seraient tes conseils pour les étudiants qui sont en ce moment en train de faire leur formation ou les futurs, ceux qui aimeraient justement entrer dans une école de formation pour être coach ou pour faire STAPS? Quels sont tes conseils en termes de formation?
Ça va pas plaire. Mais bah, la dernière fois j'étais au Dust. Mais Dust, je leur ai dit, on vous a donné quand même toutes les billes. Comme dit, il y a peut-être moins d'heures que le BP. Bon, d'accord. Mais les jeunes ont tous le bac, ils ont eu 2 ans de recul. On leur donne par contre toutes les billes pour se former. Je leur dis, la meilleure bille, là, ça va pas plaire, c'est d'apprendre l'anglais. Alors, on s'attend à lire des livres, à faire des formations, mais je leur dis toujours, la meilleure carte à jouer, si vous voulez durer longtemps, c'est d'apprendre l'anglais. Parce que les bonnes informations sont dans la langue scientifique et c'est la langue anglaise. Et c'est un gain de temps. Sinon, vous allez être obligé d'attendre. Je leur ai dit discours. Et là, Pierre, t'en fais partie. Mais des gens comme toi, j'ai envie de dire, même avec Adélia, donc comme vous et moi, on va récupérer de l'information, prendre le temps de la traduire. Forcément, ça veut dire qu'on se limite aussi sur la quantité d'informations que l'on pourrait avoir. On va la synthétiser et ensuite la proposer aux gens.
Tout à
Donc, ils
fait.
sont obligés d'attendre que nous fassions le travail. Donc d'attendre nos ouvrages ou autres. Donc finalement, la meilleure carte, ce serait apprendre l'anglais. Alors, maintenant que j'ai dit ce que je trouve le plus important, et les gens ne vont pas le faire, bah il reste lire des livres. Mais lire des livres, c'est rapide. Hein. Y en a, ils nous mettent 3 mois à lire un petit livre de 200 pages. En une après-midi, ça peut se faire. Donc le samedi après-midi, au lieu de faire 3 saisons sur Netflix, mais, bah oui, parce que c'est une question de priorité. On peut lire des ouvrages. Là,
Voilà.
tous les deux, je sais qu'on est remplis d'ouvrages. J'en ai plein, j'en lis plusieurs par mois. Alors j'ai aussi la chance d'en avoir maintenant qui sont offerts par Amphora. Merci Amphora. Mais peu importe, 40 balles, je les mets. En fait, de toute façon, je les mets dans d'autres éditions. Il y a les articles scientifiques maintenant, on arrive à les récupérer sans payer. Un article scientifique, c'est quand même plus réducteur, c'est sur une thématique, c'est très 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 spécialisé. Il
C'est
faudrait
très très
chercher des.
spécifique, ouais.
Ouais, ou alors il faut chercher des méta-analyses. Bon, mais les ouvrages, franchement, déjà, lire des livres, ça a l'air bête, mais ça fonctionne bien. Les formations, il y en a partout sur les thématiques. On parlait de la Belgique, on parlait de la Suisse, en France, mais enfin, c'est quand même facile d'aller chercher une thématique quelque part. Mais il faut continuer à se former. Moi, pour moi, le plus simple, hein, le moins cher, c'est rester les livres. 30
Ah,
francs, pas 30 francs.
complètement.
Je suis reparti un peu trop en Suisse. 30 euros, 40 euros, on a des bons ouvrages. Alors, il y en a un qui est sorti de boîte Controra, c'est un exemple, hein, mais ça en dit long quand même sur la pauvre, si elle m'entend, elle va me disputer. J'ai une étudiante, je lui propose de lire le bouquin de boîte Controra. Elle le trouve 60 euros. Et elle me fait sur ce ton-là, un petit peu comme les gens des Fécatora, fait 60 euros! Je fais, bah oui. Bah, il dit, mais non, et avec un grand sourire. Et je lui rappelle qu'en fait, ses collègues de la même promotion de l'année dernière sont tous partis à Ibiza quand ils ont été diplômés. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils n'avaient pas d'argent pendant 2 ans. Une fois diplômés, ils sont tous barrés à Ibiza. Alors je me dis, alors, soit ils sont allés à pied, soit ils ont loué un car, je sais pas. Enfin, donc, entre le transport, l'hôtel, la nourriture et le manque à gagner, parce que quand on part une semaine en vacances, c'est une semaine où on ne gagne pas d'argent. À mon avis, on a dépassé le budget. Et elle m'a dit, en plus, elle m'a répondu, on me dit, ouais, mais là, c'est pas pareil. En gros, ça, c'est bon. C'est infernal de voir le sens des priorités des nouvelles générations. Mais réellement. Et donc 40 euros, c'est extrêmement cher pour eux. C'est très cher. Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un auteur, ça touche 1,30 € hein, pour un livre de 40 euros. Donc, ce n'est pas l'auteur qui leur coûte cher. C'est même pas la maison d'édition. Hein. Mais ça veut dire que peu importe qui prend de l'argent sur les 40 euros, c'est rien 40 euros. C'est strictement rien. Vu la somme d'informations et compétences qu'ils vont avoir, ce qu'ils nous remercient quand même quand ils ont les bonnes informations. Ah, bah finalement, hier, j'ai eu un client diabétique, bah j'étais content parce que je comprenais ce qu'il me disait et j'ai su quoi faire.
Et
Ah,
tout à fait.
t'es content? Bah, tu seras content d'avoir d'autres compétences, parce que ça reste des compétences hein, issues d'ouvrages. Je conseille vos ouvrages, je conseille 70 ouvrages. En fait, le premier cours de l'année, que ce soit à la fac ou que ce soit dans un organisme, moi je présente un PowerPoint dans lequel il y a 70 ouvrages dedans. Je mets même le prix des ouvrages. J'avais calculé combien ça faisait en fait finalement en prix. Et on me dit toujours, mais on va pas acheter tout ça? Je dis, bah non, sûrement pas. Par contre, il y a bien des thématiques qui vous ont plu. Vous allez pouvoir approfondir. Franchement, quand on a un livre de 250 pages sur un seul sujet, je pense qu'il va y avoir des informations qu'on n'a pas eu le temps de donner en 3 heures.
Ouais,
Parce que
tout à
3
fait.
heures de cours, c'est des questions, des petites blagounettes, hein, de temps en temps, des anecdotes. Donc, ce n'est pas 3 heures ferme. Un cours vidéo de 3 heures, par exemple, est quand même bien plus dense qu'un cours en fait en face-à-face pédagogique de 3 heures. Et cet ouvrage, finalement, en 3 heures, on peut en avoir lu des fois la moitié. C'est un vrai gain de temps. Bon, je veux dire déjà les livres, c'est presque une priorité.
Ouais. Mais de toute façon, en plus, il faut que vous ayez conscience que les livres dont nous parlons maintenant, ce ne sont pas des romans, hein. Vous ne commencez pas à la page 1 pour terminer à la page 312. Vous allez piocher l'information qui vous intéresse dans ces livres-là. Comme Didier l'expliquait, si par exemple vous vous intéressez au diabète et au sport, vous allez trouver un bon bouquin sur le sujet. Vous allez pas commencer par la page 1 pour attendre de terminer la page 336, hein. Peut-être que l'information que vous souhaitez avoir, elle est à la page 257. Après, vous allez dire, oui, mais attendez, 50 euros pour une information pour une page. Oui, peut-être. Mais 50 euros pour une information qui va potentiellement vous aider avec 10 clients, faites le calcul de combien ça va vous rapporter derrière, quoi, et les compétences que ça va vous ouvrir. Les connaissances que vous allez gagner, justement, parce que vous allez vous intéresser, vous allez chercher à comprendre comment l'appliquer réellement sur le terrain, et ça va vous ouvrir d'autres informations. Donc finalement, le peu que vous investissez, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que vous allez gagner derrière. De plus, là, Didier, tu parlais de bouquins à 50, 60 euros. Nous, on a acheté des bouquins à 200 euros le bouquin, quoi. Bon,
Oui.
c'est pas des bouquins grand public, on est d'accord, mais 200 euros, là, on peut se dire que les éditeurs scientifiques se sucrent, hein, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet.
J'en ai un à 100. Tiens, il est devant moi là. Clinical Sports Nutrition, il est à 140 euros. C'est quoi la maison d'édition? McGraw-Hill Education. Voilà, celui-là était à 140. J'ai battu les 200 euros. Un bouquin qui était uniquement sur les maladies coronariennes. Alors, lui, il était à 300 et quelques, il y est toujours. Hein. Tu vas chez Elsevier Masson, je pense. En plus, le bouquin est très vieillissant maintenant, parce mais il est toujours au même prix, donc 300 euros. Là, celui que j'ai, tiens, regarde, tiens, je fais un petit peu de bruit sur le bureau. Activité physique, prévention et traitement des maladies chroniques, Inserm, hein, c'est quand même financé, 70 euros.
70 euros,
Et
voilà.
70 euros, on est redescendu. Mais 70 euros, alors personne ne voulait le mettre, 70 euros, bouquin fait 800 pages. Ah, il les vaut largement. Il pourrait être à 100 euros, de toute façon, on l'aurait pris quand même. Donc, ouais, des ouvrages peuvent être beaucoup plus chers. Enfin, bon, bah écoute, tu sais, plus ils sont chers, bah, moins ils sont achetés. Donc, finalement, pour ceux qui l'achètent, ça veut dire que c'est des compétences et des connaissances qu'ils auront, que les collègues n'auront pas.
Tout à fait.
Je pense qu'il ne faut pas. Tu vois, mon meilleur bouquin, t'as dit un truc juste tout à l'heure. C'est pas un roman, un livre. J'ai Biochimie des activités physiques et sportives, c'est de Portman. Ça, c'est le bouquin que je préfère depuis que j'ai fait mes études dans le sport. C'est mon préféré. Il y a eu trois éditions. J'ai trois éditions. Il y aura une quatrième, je prendrai la quatrième. Et ben, quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu. J'étais content. J'avais acheté 60 euros, truc comme ça. Je ne l'ai pas lu. J'ai dit, oula, j'ai vu qu'il était un petit peu complexe. Puis finalement, maintenant, pour moi, ça arrive. Je considère de base, pas basique, mais
Ouais,
de
ouais,
base.
ouais, ouais, ouais.
Et. Au début, je dis, oh là là, il y a trop de science, trop de choses qu'on n'a pas forcément vues en STAPS. Et bah, c'est pas grave si on est autodidacte. Bon, mais ça veut dire que ça peut être ça, un livre. Bon, je l'ai acheté, finalement, je ne vais pas le lire, mais il est là. Donc, le jour que j'ai besoin de l'information, bah, je vais m'y intéresser. Par
Exactement.
exemple, en restant sur le diabète, j'imagine bien que le jeune de 22 ans, au niveau du sportif de niveau, il va entraîner la force, la puissance, l'endurance. Bon. Et puis, bah, le diabétique, il s'en fout. Eh ben pas de chance. Dans 2 mois, en fait, un pauvre quadrégénaire arrive avec une surcharge pondérale, plus une maladie métabolique, tu vois. Et il dit, ben, j'ai un diabète de type 2. Et j'aimerais bien que vous m'entraîniez. Et il va lui donner 40 euros, en fait, à chaque fois. Et c'est marrant, parce que finalement, il va se faire quoi, ce jeune? Il va dire, ah là, il va falloir que je m'intéresse au sujet. Et maintenant, il va lire, en fait, la partie diabète. Mais il sera content d'avoir l'information à la maison. Je dis ça parce que c'est mon historique. Moi, je m'intéressais uniquement à l'explosivité et à la souplesse. Je n'ai pas à savoir pourquoi, c'est comme ça. Premier client, un marathonien. Donc, il a fallu que je m'intéresse finalement beaucoup plus à l'endurance au niveau de masse que je m'y intéressais. Deuxième cliente, semi-marathon. Et puis de fil en aiguille, t'en arrives au coronarien. Bon, aujourd'hui, j'ai plus de recul, évidemment, j'ai 43 ans, donc je m'intéresse vraiment à tout. Mais on cible en fait nos centres d'intérêt, mais déjà pour une raison simple, je pense que ça s'appelle le cerveau et la mémoire. On n'a pas la capacité à tout enregistrer, donc on sélectionne nos préférences. Et puis une fois qu'on croit qu'on a fait un peu le tour d'un sujet, on s'intéresse aux autres.
Mais tout à
Mais
fait.
c'est en ayant une bibliothèque riche, finalement, que l'on peut la chercher l'information rapidement. Parce qu'on dit qu'on a tout sur Internet. Non, on ne sait pas chercher sur Internet quand on a une année de formation, même deux. On va sur Google. On s'est tapé sur Google. Mais on ne sait pas quels sont les bons moteurs de recherche. On ne sait pas forcément de taper les bons mots sur PubMed. On ne sait pas que sur Science Directe, il y a quand même des articles en français. On ne sait pas aller sur l'EMC, l'Encyclopédie Médico-Chirurgicale. Donc, il y a un site qui s'appelle EMC Consulte. Il y a pas mal de trucs en français. Toutes ces petites infos, on ne les a pas. Donc, finalement, un pauvre bouquin, c'est un gars qui s'est amusé à concentrer pour vous toutes les informations, qui a pris ce temps. Et pour 40 balles. Finalement, c'est pas cher.
Non, c'est pas cher donné, hein. Et puis, ça vous permet d'avoir un autre point de vue, parce que dites-vous bien aussi que la personne qui écrit un livre, elle résume ses idées à elle par rapport à la littérature scientifique. Donc, ce n'est pas encore l'information pure et dure, hein. Vous avez déjà quelque chose qui est digéré et qui vous donne un point de vue. Donc, ça peut être intéressant de voir justement les différentes opinions. C'est ça qui est tellement intéressant avec différents auteurs qui écrivent sur les mêmes sujets. C'est que finalement, vous allez voir que, comme pour l'entraînement, vous avez des théoriciens, vous avez des différentes tendances, vous avez des personnes qui pensent plutôt ça et puis d'autres qui, eux, au contraire, vont travailler complètement à l'opposé. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec un bouquin.
Non, mais attention, en nous écoutant, vous allez penser qu'on veut impérativement vous acheter nos livres. Alors, j'insiste. Ouais, j'insiste. Déjà, tu parles des auteurs. Moi, j'ai quand même, dans les 70 livres que je propose sur un PowerPoint, j'ai dû en coécrire 3 là-dedans. Hein. On ne dit pas acheter nos livres. Je viens de le dire, acheter des livres avec des différents points de vue. C'est ça la richesse de la formation. Allez,
Complètement.
moi, je pense ça. Et puis, il y en a un formateur, il pense totalement l'inverse. Eh bien, je veux le faire en fait en formation. Je fais venir des gens qui disent opposé de moi et ça ne me gêne tellement pas. Ça me fait même sourire quand un étudiant vient me voir, me dit ouais, alors, dis le gars, il est pas du tout d'accord avec toi. Moi, je lui fais un grand sourire. Je dis, ah bon? Bah, c'est quoi les arguments? Bah, ça. Bon. Bah, et du coup, on pense quoi? Bah, je sais pas. T'as deux avis qui sont éclairés. Manifestement, ça veut dire aussi qu'il existe ce qu'on appelle de l'équifinalité. Ça veut dire qu'on peut arriver au même résultat avec plusieurs manières de faire. C'est la réalité, ça, de toute manière. Mais c'est bon parce que peut-être que cette réalité vous convient. Donc c'est pour ça qu'il faut aller lire, en fait, ce point de vue. C'est intéressant parce qu'il va plus vous convenir. Et pour l'instant, ça se trouve, dans 4 ans, vous changerez d'avis. Mais il faut pas être fermé, en fait. C'est le pire truc qu'on puisse faire. C'est pour ça qu'on a été sur les formations consanguines. Ça, c'est une horreur. Il faut s'ouvrir, en fait. Il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Il faut lire d'autres choses. Oh. On parle des livres depuis tout à l'heure. Après, bon, ben, on voit bien qu'il existe des formations, mais les formations ne marchent pas très bien en France. On le sait bien, toi et moi. Hein. Ça a beaucoup de mal à être rempli, parce que déjà, si 40 balles, c'est cher, imagine 400.
Tout à fait.
Pour 400, certains, c'est la moitié de leur salaire. Donc, forcément qu'ils ont du mal à le mettre dans de la formation. Je fais partie des rares exceptions. J'ai pas hésité à payer. Moi, évidemment, j'avais pas d'iPhone déjà à l'époque. J'avais un pauvre PC, ça me suffisait. J'ai pas ce besoin matériel, en tout cas, je l'avais pas quand j'étais jeune.
Voilà, c'était le mot de la fin pour ce premier podcast. Didier, merci beaucoup.
Bah, merci de l'invitation.
Et on se retrouve pour un prochain podcast ensemble. Donc nous espérons que ce premier podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à très bientôt.